le journal Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Masqués mais pas muselés, les soignants sont de retour dans la rue aujourd'hui à l'occasion d'une journée d'action nationale pour sauver l'hôpital public. Le déficit record de la Sécu dû à la crise du Covid-19 a plongé toutes ses branches dans le rouge cette année. Nous irons également à Marseille où après l'ouverture d'une enquête préliminaire mais aussi la perquisition des locaux de campagne de la candidate Les Républicains à la mairie, la campagne du second tour n'en finit plus d'être bouleversée. Puis l'invité de la rédaction aujourd'hui sera le député La France Insoumise du Nord et membre de la commission des lois Hugo Bernalicis. À l'étranger, nous vous raconterons tout d'abord cette victoire de taille hier pour des millions de salariés gays et transgenres devant la Cour suprême des États-Unis. Enfin, après des semaines de menaces incessantes proférées par la Corée du Nord contre son voisin du Sud, Pyongyang a fait littéralement voler en éclats ce matin le bureau de liaison intercoréen situé sur son territoire. Fini les applaudissements, place au rassemblement après 3 mois de crise sanitaire. Et en plein Ségur de la santé, médecins, aides-soignants et infirmiers vont battre le pavé donc cet après-midi un peu partout en France pour se rappeler aux bons souvenirs du gouvernement et plus encore à ses promesses d'un plan massif en faveur de l'hôpital public. Au total, plus de 220 rassemblements sont prévus dans le cadre de cette journée d'action nationale. Alors, la stratégie est très claire, mettre à profit en somme le soutien engrangé auprès de la population pendant la crise sanitaire afin de faire pression sur l'exécutif et en particulier le chef de l'État qui au début de l'épidémie avait lui-même salué les salariés des hôpitaux et des EHPAD comme des héros en blouse blanche. Quant à l'objectif, Tarin Schlegel, eh bien il reste invariablement le même, la revalorisation des salaires et des carrières.
Cela fait plus d'un an que l'étincelle a jailli dans les services d'urgence d'abord, épuisés de faire face à la violence et littéralement débordés, incapables de trouver des lits d'hospitalisation pour leurs malades et en sous-effectif chronique. À la faveur de ce mouvement et de la crise des EHPAD, où d'après les syndicats, il faudrait créer 200 000 emplois pour accueillir dignement les seniors, c'est l'ensemble de l'hôpital public qui a pris conscience de son essoufflement et des salaires très faibles qui rendent ces métiers de moins en moins attractifs et génèrent un turnover qui déstabilise les services, au point que les médecins sont aussi entrés dans la danse pour réclamer une refonte du système. Face à cette colère, le gouvernement a dégainé des primes qui n'ont pas suffi, une loi, Ma Santé 2022, un plan massif d'investissement, c'était à l'automne dernier, et finalement ce Ségur de la santé qui a réuni 300 participants lors de son ouverture. Mais en 3 semaines de discussion, les chantiers ont à peine été ouverts, le groupe de travail sur les salaires et les carrières s'est réuni une fois vendredi dernier, c'est le seul habilité à négocier formellement, mais les partenaires sociaux affirment que face à eux, Nicole Nota, qui anime les débats, ne tient pas les cordons de la bourse et ne peut donc rien accorder. Les syndicats s'inquiètent aussi du discours d'Édouard Philippe en ouverture du Ségur, qui assurait qu'il fallait accélérer des réformes qui vont dans le bon sens, quand Emmanuel Macron, au contraire, a promis de tout réinventer et de placer la santé en dehors des lois du marché. Dans ce bras de fer, la mobilisation d'aujourd'hui sera regardée avec une grande attention.
Établir et analyser les éventuelles défaillances de l'État dans la réponse française à l'épidémie de Covid-19, voilà peu ou prou dessiner la mission confiée pour les 6 prochains mois à la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de la crise sanitaire. Celle-ci doit commencer ses travaux aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Au total, une trentaine de députés de toutes les sensibilités, à l'exception du Rassemblement national, tâcheront donc de faire la lumière sur la gestion, mais aussi l'impact et les conséquences de l'épidémie. La veille, l'Assemblée a voté le principe de la création d'une 5e branche de la sécurité sociale dédiée aux personnes en situation de dépendance. Cette mesure viendrait donc en complément des 4 branches déjà existantes de la Sécu, que sont la maladie, les accidents du travail, la retraite et la famille. Il reste que la question des modalités comme du financement ont été renvoyées à un rapport mi-septembre, un flou aussitôt pointé du doigt par l'opposition qui parle de coquilles vides et d'affichage. Rappelons que cette réforme déjà promise puis abandonnée par Nicolas Sarkozy et à nouveau citée par Emmanuel Macron il y a 2 ans a toujours été freinée jusqu'à présent par son coût, sans compter que les dépenses liées au grand âge, 30 millions d'euros par an, pourraient encore augmenter de plus de 9 milliards d'ici 2030 en raison du vieillissement de la population, dit autrement, ce projet de loi porte des enjeux colossaux, à commencer par le creusement du fameux trou de la Sécu. Et à ce titre, voilà qu'on a appris ce matin que la prévision de déficit de la sécurité sociale, malmenée par la crise liée à l'épidémie de coronavirus, est encore dégradée cette année pour atteindre plus de 52 milliards d'euros, un record. Alors ça n'est pas véritablement une surprise, compte tenu des mesures exceptionnelles décidées pendant la crise, en particulier le confinement et la récession qui en résulte. Toujours est-il, Marie Viennot, que pour la première fois depuis 2012, les quatre branches de la sécurité sociale seront donc déficitaires en 2020.
Sur les 52 milliards de déficit de la sécurité sociale, l'assurance maladie en prend plus de la moitié, 31 milliards d'euros. En deuxième vient la branche retraite avec 14 milliards de déficit, puis la branche famille, 3 milliards. Ce qui plombe les comptes, c'est d'une partie les dépenses en plus, et c'est vrai en particulier pour l'assurance maladie, même si, selon la copie consultée par l'AFP, il y a eu 4 milliards d'euros de dépenses en moins sur les soins de ville, parce que pendant le confinement, les Français ont cessé de consulter leur médecin, leur dentiste, leur kiné. Il y a eu 12 milliards d'euros de dépenses en plus liées au Covid pour les achats de masques et de matériel, les tests de dépistage, les arrêts de travail, le paiement des heures supplémentaires et les primes aux soignants. Mais ce qui explique le plus ce déficit record de la sécurité sociale, ce sont les baisses de recettes. Une partie de cette baisse est liée à la conjoncture, moins d'activité, moins de masse salariale, donc moins de cotisations. Une autre partie est imputable à la politique du gouvernement qui, pour soutenir l'économie, a consenti des reports et des exonérations de cotisations sociales, cotisations qui ne sont pas non plus prélevées pour le chômage partiel. 52 milliards, c'est un chiffre provisoire, car l'année n'est pas finie et qu'on ne sait pas ce qu'elle réserve aussi bien sur le plan sanitaire qu'économique. 52 milliards, c'est un chiffre à minima et c'est pourtant un chiffre historique. Le record pour le moment, c'était 2010 avec un trou, entre guillemets, de 24 milliards d'euros.
À 12 jours du second tour des élections municipales et conformément à la ligne qu'il avait édictée en se déclarant candidat, tête de liste dans son port d'attache, Édouard Philippe a confirmé ce matin qu'il privilégierait bien son poste de Premier ministre à celui de maire du Havre s'il est élu le 28 juin prochain. Le chef du gouvernement qui admet toutefois qu'il pourrait être de retour dans son fief beaucoup plus tôt que la fin du quinquennat, laissant ainsi entendre qu'un important remaniement gouvernemental pourrait se profiler, mettant en balance son propre sort à Matignon. En Guyane, le second tour des municipales, lui, ne se tiendra pas comme prévu le 28 juin. Le territoire français, qui avec Mayotte reste le seul toujours classé en orange, est passé hier au stade 3 de l'épidémie en raison de la circulation toujours active du nouveau coronavirus, d'où la décision du ministère de l'Intérieur de reporter le scrutin. À Marseille, là-bas, l'ensemble des procurations déposées pour le second tour seront-elles annulées pour cause, non pas de coronavirus, mais de soupçons de fraude, après que la presse a révélé, c'était jeudi dernier, que deux candidates présentes sur des listes de la prétendante LR à la mairie, Martine Vassal, proposaient des procurations simplifiées en ne respectant pas le cadre défini par la loi. Une enquête préliminaire a finalement été ouverte par le parquet. C'est ainsi qu'hier, sortant enfin de son silence, Martine Vassal, celle que l'on présente souvent comme l'héritière de Jean-Claude Gaudin, a fini par suggérer l'annulation de toutes les procurations déposées, manière de clore en somme la polémique, sauf qu'elle a aussitôt soulevé un véritable tollé. Les précisions d'Olivier Martoc.
Et pour cause, cette proposition n'a aucune chance d'aboutir, car aucun texte n'envisage ce scénario. Si les procurations n'ont pas été établies en respectant les règles, comme l'illustrent les reportages de plusieurs médias qui ont incité le procureur de la République de Marseille à demander une enquête, alors il y a fraude, cela relève du pénal et menace les candidats LR pris la main dans le sac dans les secteurs concernés. Martine Vassal, à ce jour, n'est pas directement visée, ce qui n'est pas le cas de plusieurs de ses têtes de liste. La réaction la plus dure est venue du candidat dissident LR, Bruno Gilles, qui avait dénoncé une fraude massive portant déjà sur les procurations au soir du premier tour. Des constats d'huissier à sa demande, mais aussi celle de candidats du Rassemblement National et du Printemps Marseillais, avaient été faits sur les anomalies constatées. Rebelote donc, mais cette fois en amont du vote, ce qui laisse à la justice et la police le temps d'enquêter, mais aussi aux journalistes de poursuivre leurs investigations avant le 28 juin, une situation qui complique singulièrement la campagne des Républicains. De passage à Marseille, Yannick Jadot a prononcé hier les mots très durs de magouille et de manipulation. Michel Rubirola, inconnu il y a encore 3 mois, attend la venue d'autres ténors politiques, ce qui n'est pas le cas de Martine Vassal, présidente de la métropole et du département, et à ce titre, une personnalité qui compte à droite, un signe qui ne trompe pas.
L'invité de la rédaction aujourd'hui, Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise du Nord et membre de la Commission des lois. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et également par téléphone pour vous interroger, Pierre Neveu. Bonjour Pierre.
Bonjour Thomas.
Une première question, monsieur Bernalicis. J'évoquais en début de ce journal la journée d'action nationale du personnel hospitalier. On sait que beaucoup de promesses ont été faites depuis deux mois. On est actuellement à mi-parcours d'un Ségur, mais pour l'heure, rien n'a été véritablement décidé. Est-ce que votre parti appelle lui-même à manifester et serez-vous, Hugo Bernalicis, cet après-midi dans la rue?
Alors oui, je suis déjà dans la rue, c'est ce qui justifie que je sois là par téléphone. Je suis dans ma circonscription à Villeneuve-d'Ascq et il y a une petite pré-mobilisation des soignants d'un EHPAD là devant la mairie. Et je vais ensuite effectivement à Lille à la manifestation comme l'ensemble des parlementaires de mon groupe et des militants. Oui, nous serons aux côtés des soignants aujourd'hui, c'est là où est notre place parce qu'on ne croit pas aux promesses de ce gouvernement et même il y a des annonces du gouvernement avec lesquels nous ne sommes pas en accord. Et puis vous vous souvenez peut-être d'il y a un mois et demi, deux mois, un rapport de la Caisse des dépôts et consignations auquel le président de la République et l'exécutif avaient confié une mission sur l'avenir de la santé, qui prévoyait surtout de subventionner la santé privée et non pas l'hôpital public. Donc méfiance, et les soignants ont bien compris que ce n'est qu'en se mobilisant qu'ils pourront obtenir ce qu'ils revendiquent, c'est-à-dire, vous avez parlé vous-même dans le journal, d'augmentation de salaire. Et c'est bien ça, c'est pas des primes que veulent les soignants, c'est une reconnaissance de leur travail tout le temps, pas juste quand il y a le Covid. Et c'est comme ça aussi qu'il faut qu'on relance l'hôpital public, avec des embauches massives aussi, on le sait bien, et arrêter ces fermetures de lits dogmatiques, dont on a vu qu'elles ont pu poser problème d'ailleurs pendant le Covid, avec le limogeage d'un directeur général de l'ARS dans l'Est, justement, qui continuait de suivre par zèle le plan de l'exécutif sur les suppressions de lits.
Monsieur Bernalicis,
aujourd'hui, il faut se mobiliser.
Vous n'êtes pas d'accord, disiez-vous, avec certaines mesures du gouvernement, lesquelles?
Sur le fait qu'on ne veuille pas augmenter les salaires. Ça, je ne suis pas d'accord avec le gouvernement, de faire que des primes, de donner des médailles aux soignants. Les soignants ne demandent pas des médailles, ils demandent une reconnaissance professionnelle, une reconnaissance de leur outil de travail. Et quand le gouvernement entreaperçoit d'accélérer le rythme de réforme, c'est-à-dire de sortir les gens de l'hôpital, d'être davantage sur de l'ambulatoire et donc vers un système de santé davantage privé, oui, je suis en désaccord avec ça. Je pense qu'il faut renforcer l'hôpital public, rouvrir des hôpitaux de proximité, retrouver un maillage territorial. Ce qu'on raconte depuis 3 ans, et qui aurait, si tout ça avait été mis en place, pu être beaucoup plus efficace pour faire face à la crise sanitaire et à la pandémie. Parce qu'on a vu le président de la République, lors de son allocution, se délivrer un saint explicite en disant « tout le monde a pu être accueilli à l'hôpital ». Il faut voir les conditions. Quand vous avez des soignants qui se protègent avec des sacs poubelles parce qu'ils ont rien de mieux, je suis pas sûr qu'on puisse se délivrer tant que ça, insatisfait. Et sans parler de ce qui s'est passé dans les EHPAD. C'est quand même la zone d'ombre du discours d'Emmanuel Macron, comme si tout s'était bien passé. Non, tout ne s'est pas bien passé. Et il y a des responsabilités.
On a bien compris votre colère. Une question de Pierre Neveu.
Oui, Hugues Bernalicis, commence cet après-midi les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'épidémie de Covid-19. On se souvient que la commission d'enquête sur l'affaire Benalla n'était pas allée jusqu'au bout. Est-ce que vous y croyez cette fois-ci?
Pas beaucoup plus. J'aurais pu y croire s'il y avait eu le maximum de garanties qui avaient pu être données. Par exemple, on aurait pu imaginer qu'il y ait un co-rapporteur dans cette commission d'enquête par groupe politique, de sorte à ce que tout le monde puisse y être représenté et mener l'enquête, puisque vous savez, la fonction de rapporteur permet de demander la communication de n'importe quel document à l'administration, qui est obligé de le faire. Et puis on a la présidence qui reste à la République en marche. La raison pour laquelle tout avait été avorté la précédente fois, c'est parce que la présidence, dans le cadre de l'affaire Benalla, était Ayel Braun-Pivet, elle-même présidente de la commission des lois. On retombe dans le même scénario, donc j'ai envie de vous dire, j'ai plus confiance en ce qui va se passer en termes d'enquête au Sénat que ce qui va se passer à l'Assemblée nationale, parce que pour moi, toutes les garanties n'y sont pas. Alors on suivra, on regardera les travaux, mais vous savez, déjà nous-mêmes, au groupe parlementaire de la France Insoumise, on a monté notre propre commission d'enquête parallèle, en faisant nos propres auditions pendant la crise, pendant le confinement, et il en est ressorti un rapport d'un peu plus d'une centaine de pages qui a été rendu publiquement parce que nous ne croyons pas à ces mécanismes de contrôle à l'Assemblée nationale, puisqu'ils sont vidés de leur substance par la majorité. Et ça, c'est un vrai problème démocratique, en dehors du Covid, plus général. Donc, Voilà, on va suivre ça. Je n'y crois pas plus que ça. Voyons ce que peut en tirer et regardons ce que fait le Sénat.
Une question sur les municipales. Quelle est l'ambition de la France insoumise? Parce qu'il y a eu des candidatures isolées, des initiatives citoyennes, peu d'alliances pour conquérir une ville. Et on voit par exemple qu'à Toulouse, la liste qui rassemble les Verts, le PS, le PC, la France insoumise, peut l'emporter face à la liste du maire sortant Jean-Luc Moudenc.
Ben oui, comme vous dites, il y a différents cas de figure. Donc dans les cas de figure où on est en capacité de l'emporter avec d'autres, donnons-nous toutes les chances de succès. Il y a des endroits où on se maintient tout seul au deuxième tour sans avoir forcément des chances de succès, mais faisons en sorte qu'il y ait un maximum de conseillers municipaux d'opposition de la France insoumise. L'objectif, au fond, pour nous, il était de lancer des dynamiques citoyennes, d'établir le contact avec le tissu associatif, le tissu syndical au niveau local, pour ensuite être plus efficace pour les étapes suivantes. Et puis, très logiquement, d'avoir un maximum de conseillers municipaux dans tout le pays, que ce soit de majorité ou d'opposition, parce que on partait de rien. La France insoumise est un mouvement qui s'est créé à la dernière élection présidentielle, donc c'est notre premier scrutin municipal. Donc nous allons, et c'est de toute façon ce qui va arriver, constituer un grand réseau d'élus, qu'ils soient d'opposition ou de majorité, et ça, ce sera un atout pour la suite, quels que soient les résultats. Et puis nous, moi je suis très content, par exemple, sur Lille, on a la mairie de Fâche-Thumesnil qui est tout à fait collée à Lille, où vous avez un maire de la France insoumise qui a été élu dès le premier tour. Donc on aura aussi des endroits où nous pourrons mettre en œuvre nos propositions politiques et donner à voir par l'exemple que la solidarité, le partage peuvent être mis en œuvre dans des communes par à contrario des dispositifs qui étaient mis à l'œuvre jusqu'à présent.
Merci Hugo Bernalicis, député La France Insoumise du Nord, membre de la Commission des lois, d'avoir répondu à notre invitation et merci également à Pierre Neveu. Le Front National a-t-il escroqué l'État? Le tribunal correctionnel de Paris était appelé à se prononcer ce matin sur l'affaire dite des kits de campagne du FN aux législatives de 2012, système imaginé pour pallier les difficultés de financement du parti après les déroutes électorales de 2007. Alors système ingénieux ou frauduleux, la justice a fini par trancher en condamnant le FN à une lourde amende de 18 750 euros pour recel d'abus de biens sociaux. La Cour suprême des États-Unis a accordé hier une victoire de taille à des millions de salariés homosexuels et transgenres en estimant qu'ils étaient eux aussi protégés par les mécanismes de lutte contre les discriminations au travail. Et ce, contrairement à la position de l'administration du président républicain. Depuis 1964, une loi fédérale bannissait déjà les discriminations en raison du sexe, sauf que la majorité des tribunaux considérait qu'elle ne s'appliquait qu'aux différences hommes-femmes et non aux minorités sexuelles. Alors cette victoire met fin à des années de controverses, mais elle apparaît d'autant plus éclatante, Claude Guibal, qu'elle a été rendue possible grâce à deux juges parmi les plus conservateurs de la plus haute instance juridique du pays, nommés par des présidents républicains, et qui à cette occasion donc ont fini par rejoindre les quatre juges choisis par des présidents démocrates.
Deux hommes que l'on n'attendait pas sur ce sujet si emblématique pour la cause LGBTQ aux États-Unis. Deux juges conservateurs, John Roberts, le chef de la Cour suprême, qui pourtant s'était en son temps opposé au mariage gay, et Neil Gorsuch, nommé par Donald Trump et dont le vote fait flamber la colère de l'électorat évangéliste du président américain, un électorat qui crie à la trahison. Neil Gorsuch, note les éditorialistes, n'a pas pour autant viré ultra-libéral, mais ce magistrat qui se définit lui-même comme un textualiste, un littéraliste, a respecté à la lettre le texte de la loi de 64, un texte qui bannit la discrimination sur le lieu de travail en raison du sexe. Et tout le travail de la Cour suprême a donc tourné autour de la définition de ce mot « sexe » qui, au-delà du genre « homme-femme », inclut toutes les orientations sexuelles, estime aujourd'hui la Cour suprême. Pour l'électorat de Donald Trump, c'est évidemment un choc, car ce dernier, lors de sa campagne, avait gagné sa base conservatrice en promettant justement de nommer un juge conservateur à la Cour suprême en cas de victoire, un conservateur capable donc d'empêcher toute libéralisation de la société. Seule la moitié des États américains jusqu'ici avaient adopté des lois protégeant les salariés en fonction de leur orientation sexuelle.
Toujours aux États-Unis, les exécutions fédérales reprendront le 13 juillet après 17 années d'interruption. C'est ce qu'indiquait hier soir le ministre de la Justice. Donald Trump, qui brigue, faut-il le rappeler, sa réélection en novembre prochain, réclame régulièrement un usage renforcé de la peine capitale, notamment pour les trafiquants de drogue ou les tueurs de policiers. Lui a été abattu de 2 balles dans le dos par un policier. Lui, c'est Richard Brooks, 27 ans, dont la mort à Atlanta le week-end dernier a ravivé la douleur d'un pays à vif depuis le meurtre de George Floyd. Hier, la maire de la ville, vibrante de colère, a annoncé des réformes immédiates de la police, portant notamment sur les techniques de désescalade et la formation des agents à l'usage de la force. Quant à Donald Trump, lequel se sera montré jusqu'à là très évasif au sujet des réponses à apporter aux revendications des manifestants contre les violences policières et le racisme, il va lui tenter ce mardi de dissiper la colère du pays avec un décret visant à encourager les bonnes pratiques au sein des unités locales des forces de l'ordre. Enfin, Donald Trump, toujours lui, a confirmé hier vouloir nettement réduire le nombre de militaires américains stationnés en Allemagne. Le président a notamment rappelé que 52 000 GIs y étaient actuellement stationnés, soit le principal ancrage des forces américaines de l'OTAN. Une manière sans doute pour le locataire de la Maison Blanche de se servir ainsi de la sécurité européenne comme d'un levier dans ses négociations commerciales avec Berlin. C'était il y a un an, presque jour pour jour, le 2 juin 2019, avait lieu en Allemagne le premier meurtre politique d'un représentant de l'État depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette nuit-là, Walter Lübcke, élu du parti conservateur d'Angela Merkel, fume une cigarette sur la terrasse de sa maison lorsqu'il est tué d'une balle dans la tête tirée quasi à bout portant. Un assassinat politique qui avait choqué l'Allemagne et aussi réveillé le spectre du terrorisme d'extrême droite. Et bien depuis ce matin, c'est ouvert à Francfort le procès du tueur présumé, Stefan Ernst, 45 ans, proche de la mouvance néo-nazie. Alors ce procès extrêmement attendu outre-Rhin est éclairant à plus d'un titre. Tout d'abord parce que la menace du terrorisme d'extrême droite est aujourd'hui perçue comme un défi crucial pour la sécurité intérieure, mais aussi parce que le suspect, accusé de meurtre aggravé et qui encourt la réclusion à perpétuité, était connu des services de sécurité, suspecté dès 1993 d'avoir planifié un attentat à la bombe. Il avait encore participé en 2009 à une émeute raciale. Or, malgré ce passé chargé, les services de renseignement avaient cessé ces dernières années de le surveiller ou quand l'enquête aura révélé au fond plusieurs erreurs de la police, déjà souvent accusées dans le passé de complaisance à l'égard des néo-nazis. Symbole d'une détente désormais envolée, le bureau de liaison intercoréen ouvert en 2018 dans le contexte de l'extraordinaire apaisement apparu sur la péninsule a été détruit ce matin par Pyongyang. Il s'agissait du premier instrument physique permanent de communication ouvert entre les deux ennemis historiques. Alors, cette destruction intervient en réalité après des semaines d'attaques verbales incessantes de la part de la Corée du Nord, une manière pour le moins radical, en somme, de provoquer une crise avec son voisin du Sud au moment même où les négociations sur le nucléaire avec Washington sont à l'arrêt. Une correspondance à Séoul signée Frédéric Ojardias.
Une forte explosion et un lourd panache de fumée grise qui s'élève par-dessus la frontière entre les deux Corées. Le régime nordiste a détruit à l'explosif le bureau de liaison intercoréen construit en septembre 2018 près de la ville frontalière de Kaesong en territoire nord-coréen. Ce bureau était considéré comme une sorte d'ambassade non officielle de la Corée du Sud. Il était vide depuis janvier en raison de l'épidémie de coronavirus. Sa destruction a été confirmée par Séoul. Kim Yo-jong, la sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, avait menacé samedi de détruire ce bâtiment qualifié d'inutile. Le Nord a aussi menacé de reconstruire des postes de garde sur la frontière qui avaient été démantelés en 2018. Depuis plusieurs jours, le régime aggrave les tensions, prenant pour prétexte les tracts anti-Pyongyang que les réfugiés nord-coréens envoient par ballon au Nord. Ils semblent chercher à obtenir des concessions du Sud ou bien se sert de ces tensions pour unir sa population derrière un ennemi commun et lui faire oublier ses difficultés économiques.
La situation épidémique à Pékin est extrêmement grave. Avertissement lancé ce matin par un porte-parole de la mairie. Et ce, alors que plus d'une centaine de personnes ont été contaminées en moins d'une semaine dans la capitale chinoise par un soudain regain de contagion qui suscite la crainte d'une deuxième vague. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Maussade sur la moitié ouest du pays, ciel chargé, voire couvert avec des averses parfois orageuses. Seules les régions méditerranéennes bénéficieront d'un temps sec, légèrement venté. Quant aux températures, températures, elles afficheront entre 17 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nathalie Lopez. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.